I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est en direct, on vous salue tous qui, toutes les personnes qui sont dans le chat. Vous êtes déjà là, merci malgré nos retards habituels, hein. On n'est jamais à l'heure. Voilà.
Allez, 5 minutes.
Ça s'améliore.
On est encore dans le quart d'heure parisien.
Le quart d'heure de politesse, le fameux quart d'heure de politesse, ça va, un jour on y arrivera. En tout cas, je vais présenter ici mes compères pour ce live du samedi. D'habitude, c'est le dimanche. Aujourd'hui, on a décidé de décaler un petit peu ça. Il arbore un maillot de Brooklyn. Très beau. Il est en claquette aussi. Il nous l'a fait entendre tout à l'heure. C'est Tom. Comment ça va, Tom?
Très bien, très bien. Écoute, très bien. Aussi bien que Kevin Durant en ce moment.
Eh ben, ça veut dire très, très, très bien. Hein. Et puis, lui va mieux que Jason Tatum, je pense, actuellement. C'est Alan. Comment ça va?
Ça va. Oh, il va bien, Jason. Il est en vacances. Des vacances.
Il vit sa meilleure vie.
Au lieu de jouer avec des joueurs qui savent pas jouer au basket. Mais je vais être le PJ Tucker de Kevin Durant. Je vais rentrer dans la tête de Tom dans ce live.
écoute, j'ai un garde du corps. J'ai un garde du corps qui est dans le payroll.
Attention. On va en parler aussi.
Après, les gars, est-ce que c'est si choquant que ça? Enfin, c'est une personnalité publique et tout. Ouais, moi, ce qui me choque, c'est que le garde du corps, il soit dans la salle.
Ouais, voilà, qu'il soit rentré sur le terrain, quoi.
Ouais. Alors que tu vois, enfin, PJ Tucker, c'est PJ Tucker qui vient de jouer, tu vois, il y a des antécédents par rapport au fait qu'ils étaient tous les deux à Texas. Ils ont joué ensemble à Texas.
Voilà. Eh bien, on a une ribambelle de salut, hola, bonjour, etc. Donc, j'estime qu'on nous entend, ce qui est déjà la première victoire. La deuxième victoire, c'est faire un live sans problème technique. On va pas s'avancer trop vite. Messieurs, vous voulez parler de quoi pour commencer? Je vais dire bonjour à Jules, Flavien, Starship, Ilias, bonjour à tous. C'est à cause de la NBA qui met des techniques de merde pour rien. ça veut dire qu'on nous entend, ça. Ça veut dire qu'on nous attend, c'est très bien. On a donc aujourd'hui, on va donc parler comme un peu hein, à chaque fois avec ces lives là, des séries actuellement. Je vous laisse le choix, la trame elle est très libre aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi en premier, les gars?
Phoenix.
Ah,
Phoenix.
Phoenix. C'est vrai qu'on les a un petit peu laissés de côté. Alan a dégainé le plus rapidement. On va te laisser y aller sur Phoenix.
C'est un peu dommage que les Nuggets soient pas à 100% parce que je pense qu'avec Murray, franchement, ça aurait été vraiment une série incroyable. Mais Phoenix, franchement, on verra sûrement au prochain tour si ils étaient trop forts ou si en fait c'était Denver qui était pas assez bon. On verra en fonction de ce qui se passe en finale de conf. Mais pour moi, franchement, c'est l'équipe la plus impressionnante à l'Ouest sur les playoffs. Même devant Utah, parce qu'Utah, c'est pour moi une surdomination sur de l'adresse qui se passe dans les deux premiers matchs contre les Clippers, là où en fait, les Suns, c'est une surdomination partout dans les trois premiers matchs contre Denver. Chris Paul, il est magnifique. Booker, je suis heureux que l'an passé, on n'ait pas sous-coté Booker dans le DH20 et qu'on ne se soit pas laissé... Oui, parce qu'il n'avait jamais joué de playoff et tout ça. Mais c'était déjà un des 20 meilleurs joueurs du monde l'an passé. Et cette année, il est encore vraiment dans ce cadre-là. Il va même monter sûrement dans les DH20. Et franchement, moi, c'est mon équipe préférée des playoffs à regarder, je pense. Donc, je suis super content pour eux. Et franchement, pour moi, ils ont tout pour aller en finale. Vraiment.
On nous dit, même avec le parcours des Nuggets super affaibli. C'est vrai, on va être honnête que... Moi, j'avoue que cette série, elle me fait plus, elle me provoque un espèce de l'urticaire pour les Blazers.
Oui, bah oui.
C'est-à-dire les Blazers qui n'ont pas forcément réussi à profiter de cela, plus que pour les Nuggets qui sont totalement amoindris, Tom.
Bah après, moi, j'ai peur en fait que les Suns, on les voit malheureusement comme une équipe qui passe des équipes blessées. Tu vois, par exemple, ils sont passés au premier tour contre les Lakers. Et là, ils risquent de passer, enfin, ils mènent 3-0 d'après la stat. Sur les 142 fois où une équipe était menée 0-3, ben, aucune équipe n'a gagné la série. Donc normalement, Phoenix devrait se qualifier. Et j'ai peur en fait qu'on enlève du crédit à cette équipe-là, tout simplement parce qu'elle bat des équipes qui sont pas au complet ou qui sont amoindries. Alors que comme le disait Alan, Phoenix, c'est une super bonne équipe de basket. C'est une équipe qui joue un jeu de playoff depuis la saison régulière. C'est une des meilleures équipes de la ligue sur tout ce qui est demi-terrain. On a Chris Paul qui fait des matchs magistraux, qui vraiment commande l'attaque. En fait, c'est une équipe où tous les éléments fitent parfaitement entre eux. Et en plus, ils ont un petit côté grinta. Et puis, enfin, cette équipe-là, je pense qu'au début de la saison, le plus gros doute qu'on avait, c'était sur DeAndre Ayton. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Et en fait, avec ces playoffs-là, on se rend compte que, pour moi, hein, DeAndre Ayton, c'est un peu devenu une licorne, dans le sens où il est capable défensivement de défendre sur les pivots lourds et qui est aussi capable de défendre sur les joueurs aussi un peu plus fluents. C'est-à-dire que c'est un gars qui peut avoir les qualités défensives qu'on trouve intéressantes sur tout ce qui est sur des joueurs comme Bam Adebayo et aussi Anthony Davis, et qui a la possibilité, lui, de garder les joueurs solides là où la majorité des pivots, entre guillemets, un peu qui sont capables d'aller sur le périmètre, ben n'ont pas assez de force et de puissance sur le bas du corps pour pouvoir contenir les pivots un petit peu plus classiques à la Jokic.
C'est ce que nous dit Furious Pat. Phoenix, la seule équipe avec les Nets qui peut se permettre que tous ses joueurs ne soient pas excellents en même temps. C'est vrai que, en fait, c'est surtout une équipe qui a de la profondeur. Et c'est probablement, je déteste dire ça parce que faut réfléchir aux 8 équipes, mais assurément une des plus profondes, si ce n'est la plus profonde, en tout cas en joueurs de qualité qui peuvent jouer sur des matchs de playoff. C'est assurément, en fait, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis d'accord avec Alan. Booker, c'est incroyable. De toute façon, cette jeune génération de joueurs qui pull up à 3 points, etc., là il y en a quelques-uns, c'est extrêmement impressionnant. Puis Ayton, faut se souvenir de notre petit jeu d'avant saison où on avait fait un petit peu faites entrer votre franchise, et au moins j'avais mis l'accent, j'avais insisté sur le fait, avec un petit peu de mauvaise foi, c'était le but de cet exercice, que selon moi, DeAndre Ayton entrait dans une année charnière. Bah je trouve que il y répond présent, et sur le MVP en titre, la série précédente sur Anthony Davis, alors certes c'était peut-être Anthony Davis amoindri, mais ça fait deux grosses séries de playoffs où il est incroyable, et puis il y a juste trop de... Il y a trop de profondeur, donc Phoenix impressionnant. Je suis étonné que vous... Utah quand même, c'est très fort aussi les gars.
Ouais, mais c'est franchement, j'ai refait les deux matchs là avant, c'est n'importe quoi l'adresse. C'est complètement n'importe. C'est
complètement. Mais ils ont fait ça toute la saison aussi, tu vois. C'est pas comme si
pull-up de Jordan Clarkson et tout dans les fins de carton. Mitchell, j'en parle pas. Enfin, Mitchell, il est. Moi, je suis de base assez bas sur Donovan Mitchell. Je l'assume. C'est-à-dire que quand il y avait la saison régulière, je trouvais par exemple que Shai Gilgeous-Alexander méritait plus d'aller au All-Star Game que lui. Alors ça pouvait ne pas se défendre. Je comprenais qu'on me dise non. Je le trouvais un peu en dilettante, mais en fait, dès qu'il y a le setting playoff, il est trop fort, en fait. En mode playoff, il est trop, trop fort. Pick and roll à très haut de Gobert pour qu'il puisse prendre de la vitesse. Les changements de direction, il est trop fort dans les changements de direction, droite, gauche, la vivacité comme ça. Et puis après, quand il arrive à pull up avec le step back, avec le side step sur le côté, il est trop, trop fort. Mais encore une fois, bravo à Gobert parce que c'est grâce à lui que tu peux jouer avec Bogdanovic, O'Neal, Clarkson ou Ingles et Donovan Mitchell dans les fins de match. C'est grâce à lui que tu peux avoir ces menaces-là. Puis en face, tu as des Clippers qui, moi, m'exaspèrent. Vraiment, je suis exaspéré par cette équipe, complètement.
on nous l'avait dit l'autre fois, on a passé beaucoup de temps sur les Clippers, donc on va essayer de passer du temps sur les équipes qui le méritent, hein, tout simplement. On parlait de Donovan Mitchell, 13 sur... on l'a déjà dit, mais à chaque fois qu'on fait cela, il y a des écrans de partout, donc je ne vous fie pas du regard, je regarde juste mes stats. Donovan Mitchell, 13 sur 34 sur les pull-ups à 3 points, 41% en play-off. C'est inhumain.
C'est du Lillard.
C'est très solide.
Il est un peu sur la trajectoire de ce qu'il faisait dans la bulle la saison dernière. En fait, ce qui est intéressant avec Utah, c'est un peu Utah, en fait, l'équipe de Utah, ça me rappelle vraiment le Toronto de Kawhi. C'est-à-dire que tu as une équipe avec Donovan Mitchell où quand il est là, c'est beaucoup du match-up hunting et lui, il va dans ses spots. Et tu as une équipe, par exemple, autour de lui ou quand il joue pas, avec Mike Conley, où il y a beaucoup plus de circulation de balles, parce que t'as besoin, en fait, Utah, c'est une équipe qui a beaucoup d'amplificateurs de décalage quand hors Donovan Mitchell. C'est-à-dire que t'as très peu de ball stoppers, t'as beaucoup de ball movers qui font que, voilà, tu vas avoir un demi-avantage, mais ils vont faire bouger le ballon pour que finalement tu aies ton avantage conséquent qui te permet d'avoir ton tir à trois points ouvert, que ce soit dans le corner ou à 45 degrés. Enfin, c'est un peu ce qu'ils appellent à Utah le blender, où il y a beaucoup, enfin, ils pénètrent une première fois la défense, et après tu as un swing, et le ballon arrive toujours dans les mains du joueur ouvert. Après, ce qui est étonnant, hormis tout le scoring et l'explosion scoring de Donovan Mitchell, c'est vraiment les Clippers n'ont pas vraiment de réponse au fait qu'ils ont rajouté un ball handler de grande taille avec Joe Ingles, et au final, on pensait que ça aurait peut-être été Royce O'Neal, le joueur le plus important pour eux pour défendre sur les ailiers. Et au final, on voit que Bogdanović arrive à faire le job, quoi, parce qu'il lui oppose de la résistance et il est massif. Et ça, c'est quelque chose que les Clippers n'ont rien à envoyer du coup à l'arrière pour freiner Donovan Mitchell, puisque voilà, enfin, Patrick Beverley, il est bien gentil. Alors oui, il a de l'énergie, tout ça, mais le truc avec Donovan Mitchell, c'est que offensivement, il est très très fort sur l'utilisation en fait de sa longueur de bras pour pouvoir créer de la séparation et avoir des bons angles pour finir ses actions. Et même si tu lui mets, c'est un gars qui joue beaucoup plus grand que sa taille. Il fait quoi, 6-1, mais il joue comme un mec de, il joue comme quasi un ailier, quoi, Donovan Mitchell. Il défend les ailiers.
Après, sans trop parler des Clippers aussi, le problème des Clippers, c'est que leur troisième meilleur joueur, ça doit être Reggie Jackson. Bon, bref, on va fermer la parenthèse là-dessus, mais c'est extrêmement problématique. Alors, on nous dit, l'absence prolongée de Conley peut être préjudiciable pour aller en finale de conf, selon vous. En fait, Alan nous a souvent reproché de projeter les Clippers, d'en faire une équipe à potentiel. Là, c'est concret, ils sont moins bons. Sur les deux premiers matchs, ils sont moins bons. Et on a souvent dit, Serge Ibaka devait être une des clés de cette série-là. On a appris il y a 2 ou 3 jours qu'il allait se faire opérer, qu'il allait rater la fin de la saison.
C'est dur.
C'est pas la même série que celle d'avant. Hein. C'est pas la même équipe. Donc, en fait, non, je pense qu'ils vont arriver en finale de conf. Par contre, oui, s'ils y sont, ne pas avoir Mike Conley, compliqué. C'est même ça qui est terrifiant, c'est que le Jazz fait ça sans Mike Conley.
Oui, mais d'un autre côté, tu vois, le fait de ne pas avoir Mike Conley, Donovan Mitchell, ils ont remplacé Mike Conley en gros par Joe Ingles. Enfin, tout le rôle de playmaking a été reporté sur Joe Ingles. Et en fait, au final, ça libère un peu Donovan Mitchell et son agression. Et puis, d'un autre sens, ça veut dire que tu n'as pas vraiment de joueur petit vraiment sur le terrain. Et tu peux pas cacher les autres, tu vois, parce que Mike Conley, on peut dire ce qu'on veut, aujourd'hui, défensivement, c'est un joueur qui est problématique. C'est un joueur qui est problématique défensivement dans le système défensif parce qu'il est petit et c'est plus le Mike Conley de l'époque et qu'il a besoin de garder de l'énergie pour pouvoir produire en attaque. Et du coup, il se fait facilement cibler de l'autre côté du terrain. Mais vu que là, tu le remplaces par, entre guillemets, Joe Ingles, qui est un joueur, référencé bon défenseur, et c'est pas forcément un bon défenseur, Joe Ingles, mais c'est un joueur qui a des mains plutôt actives. C'est aussi un joueur de grande taille et qui est costaud, tu vois. Il est un joueur de grande taille qui est costaud, donc la façon dont tu vas, entre guillemets, pouvoir abuser un joueur qui de moins de 1m90, c'est pas de la même façon que tu pourras abuser Joe Ingles qui est beaucoup plus grand.
Avec des ailiers grands, quoi. Il y a pas vraiment de mecs super vifs qui peuvent pull-up ou créer de la séparation. Enfin, c'est Jackson le plus petit et c'est un spot-up, shooter en fait, Jackson avec. C'est pas si problématique que ça d'avoir Ingles tant qu'il se retrouve pas sur Kawhi et PG, quoi.
On l'avait dit ça, les Clippers manquent de vitesse, les Clippers manquent de mecs qui pull-up. Sur les 9 premiers matchs de playoff, Paul George, c'est 14 tirs pull-up à 3 points. C'est pas beaucoup, hein, ça fait à peine plus de 1 par match pour seulement 4 réussites. Bien évidemment, on parle des Clippers, vous pouvez deviner que dans le chat, Paul George prend la dose habituelle. Mais
après, c'est dur quand même. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont fait pire cette saison que Paul George en playoff. Hein.
Oui, peut-être.
Du côté de Miami. Oui,
c'est pas parce qu'un mec a fait pire que l'autre, on ne doit pas dire qu'il n'est pas bon ou qu'il est décevant.
Il y a une différence entre ne pas être bon.
Oui, il y a une différence de traitement.
Et ne pas pouvoir jouer et être moyen. C'est juste que on a trop d'attentes par rapport à Paul George, par rapport à son statut et tout ce qu'il a
fait. Ah, il est troisième MVP il y a 2 ans, Thomas.
Ouais, mais il s'était pas fait opérer des épaules.
Mais Isaiah Thomas, il est cinquième il y a 3 ans.
Il s'était pas fait opérer des deux épaules hein, avant d'être MVP. Hein. Quand il quitte OKC, il s'est fait opérer des deux épaules, ouais, le mec.
Mais moi, je l'aime bien, par contre, et c'est là que tu vois, par contre, qu'ils ont des soucis, c'est qu'à la création, c'est le meilleur joueur des Clippers. Et il est bon, même, moi, je trouve. Quand ça va bien du côté des Clippers, en fait, Paul George, il fait beaucoup de drive and kick.
Il y a Benjamin qui a Ben qui perdu.
Je suis désolé parce qu'il y a écrit dans le chat Pfizer P prend sa dose.
Ce surnom il est incroyable.
Je suis désolé, j'arrive pas à cacher mes expressions. Je suis pas bon pour
Playoff
ça.
Playoff P, Pandemic P, et maintenant c'est Pfizer P.
Pfizer P. On nous dit, Rem Gok qui nous dit, le Jazz arrive toujours à trouver un bon tireur à 3 points ouvert et Mitchell est pas sursollicité pour faire le jeu. C'est très juste. Après, il y a des. C'est les Clippers, il y a toujours des errements défensifs. Il y a un moment, enfin, c'est un 3 points qui a fait un peu le tour de Twitter, mais il y a un moment où Bogdanovic, alors que les Clippers font leur petit run dans le match 2, ils se retrouvent tout seuls sur un 3 points. Tu te dis, comment c'est possible à ce niveau-là
du jeu? Ouais, une gueule aussi en transition.
Exactement. Des joueurs qui ont de l'expérience, en plus, du côté des Clippers. Il n'y a pas l'excuse. On parlera peut-être d'Atlanta après. Atlanta, j'ai plus de... C'est une équipe jeune, ouais. ils découvrent les playoffs, etc.
Ils sont petits, ils ont des excuses. Par rapport à Philly aussi.
Ils sont petits. Eux, ils sont longs. Ils ont de l'expérience. C'est indéfendable, parfois, ce qui se passe. Et on nous dit, l'Oxyvid qui nous dit le Jazz injouable à 100% et au complet, oui, fort possible. Je pense pas. À 100%, le Jazz n'est pas mon favori, personnellement.
Pourquoi d'ailleurs ? C'est toujours la problématique Gobert ou c'est...
Tom, regarde le maillot que tu portes. Voilà, c'est juste...
D'accord, du coup. ouais, écoute.
136 d'offensive rating, n'importe quoi. Et tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais du coup, les gars, on parle peu de ces équipes-là. Donc, dans une potentielle... Ça sent quand même... on
ça dépend
quand même
du match de cette nuit, mais ouais.
Se diriger plus ou moins vers un Utah-Suns. Donc j'ai quand même l'impression que Tom, tu mettrais le Jazz favori et Alan, ouais. Les Suns favoris.
Ouais.
Bah, du coup, vous êtes devant une assemblée, défendez votre position. Parce que moi, je vous avoue que je suis un peu partagé. Je pencherais plus du côté d'Alan, peut-être. Donc je vais te laisser commencer.
Je conduis ce train de l'Arizona depuis... Ce train du cactus depuis quelques mois. Alors, par contre, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas de mémoire. Ce qui s'est passé entre les deux équipes sur la saison régulière, faudrait que j'aille revoir. J'ai pas trop de souvenirs de. Ils ont.
Je crois que Utah avait perdu un match serré.
Un match à Phoenix, ouais.
Utah avait perdu un match serré, ouais. Que Phoenix gagne ou Booker fait un peu de Nancy Gobert un moment.
Après, encore une fois, regarde ton maillot, Tom. Les matchs de saison régulière, parce que les Nets Bucks en saison régulière.
Bref. Mais bon, je trouve Utah plus profond. Non, Phoenix plus profond. Enfin, Milwaukee, je pense qu'ils aimeraient beaucoup avoir Torrey Craig là dans la série contre les Nets. Ils l'ont coupé parce qu'ils ont signé Jeff Teague. En fait, non, ils l'ont coupé parce qu'ils devaient de la place pour PJ Tucker. C'est méchant ce que je dis. C'est méchant. Mais après, ils ont signé Jeff Teague. Et rien que pour ça, ils méritent que je les tape un peu. Plus profond. Il y a peut-être pas ce défenseur sur les bases extérieures qui allait mettre sur Mitchell, mais le duo Booker. Chris Paul en termes de création individuelle sur pick. Enfin, tout le monde loue les performances de DeAndre Ayton et je suis d'accord, c'est vrai. Mais son travail, il est franchement hyper facilité en attaque quand tu joues avec Chris Paul. Et là, il fait.
Ouais, mais c'est pas ce qui est plus important. Excellent. Pour le pivot.
Complètement.
Pour le pivot, c'est pas ce qui est plus important. Rôle, non
et il est servi par Chris Paul, le meilleur meneur passeur du 21e siècle.
Après, sur les deux premiers tours, il prend Jokic
et Davis.
En défense,
il est incroyable. Et je le dis, il est vraiment super intéressant. Mais en attaque, il est un petit peu... C'est facilité son travail.
Ouais, talent dépendant.
Ouais.
Il est un peu talent dépendant, mais après,
il le fait par contre super bien. Ouais. S'il le ferait pas bien, là, il y aurait problème. Il le fait super bien. Mais tu joues avec Chris Paul, Booker. C'est-à-dire que tu as deux créateurs sur pick and roll, deux mecs qui peuvent aller dans leur spot là où ils veulent à tout moment. Et Booker, je suis désolé, mais il va falloir qu'on commence à mettre du respect sur son nom. Parce que ce qu'il fait offensivement, l'arsenal offensif, la facilité, le pull-up game... Il a rien à envier à pas mal de mecs dans cette ligue, offensivement. Donc, rien que pour ça, moi, je vois plutôt Phoenix dedans. Surtout si y a une petite panne d'adresse du côté d'Utah à 3 points. Ça va plus se ressentir que du côté de Phoenix. Là où Phoenix, ils auront toujours le mid-range de Chris Paul. Ils auront Booker en ISO. Je trouve les possibilités de marquer et de se créer facilement de l'attaque du côté de Phoenix plus diversifié que du côté d'Utah. Voilà.
À, pa- à, à pas oublier aussi. Alors dans le chat, quand on demande Suns Jazz, on a quand même l'impression que ça penche grandement du côté des Suns. Les Suns sont moins dépendants de l'adresse avec plus de maîtrise du tempo d'un match avec les deux équipes. Après, les deux équipes sont tellement construites pareil. Sur le 5, c'est tendu pour départager. Ils vont découvrir Gobert, ça va leur changer. Bon, c'est vrai que là, ils n'ont pas découvert Gobert encore, c'est vrai. Après, juste une petite parenthèse avant de te donner la parole, Tom. J'ai un peu de mal avec le « faut mettre du respect sur Booker, faut mettre du respect sur Mitchell, etc. » C'est des mecs que, au sein du DHV, on a mis top 20 NBA. Alors, je sais bien, peut-être que, encore une fois, on va peut-être dire que c'est pas assez, mais dans une ligue où il y a 300 mecs, il y a plus de 300, on te met dans le top 20. Enfin, pour moi, c'est déjà... Alors, certes, peut-être que, oui, on va peut-être les faire monter de quelques places, mais je trouve que, en fait, on avait peut-être anticipé ça, peut-être pas à ce niveau-là, pas au niveau du dernier match de la série de Booker contre les Lakers où il fait un premier carton dantesque, mais de base, je trouve qu'on n'avait pas été dur avec ces joueurs-là.
Ah, mais nous, on le respecte, mais il y a d'autres gens dans le microcosme NBA qui, pendant longtemps, disaient il arrivait jamais à faire gagner son équipe.
Mais...
c'est ce qu'on en entendait sur Trae Young, mais il jouait avec des mecs éclatés aussi, donc c'est normal qu'au bout d'un moment...
Après ça, le jour, je vais faire de ma bio Twitter, les victoires sont une statistique collective. Je te laisse la parole.
moi, de mon côté, je pensais plus du côté du Jazz pour deux choses. Je pense que, après, il faut voir avec, en fonction de la santé de Mike Conley. Mais en fait, je trouve que depuis le début des playoffs, Chris Paul et Devin Booker sont beaucoup économisés de l'autre côté du terrain parce qu'il y a personne qui les attaque frontalement. Là où, par exemple, des joueurs comme Donovan Mitchell et Mike Conley sont beaucoup plus tranchants que tout ce qu'ils ont rencontré auparavant. Et je pense que...
Mais il va jouer Conley
Non, enfin, il devrait pouvoir. Hein. On ne sait pas, mais il devrait pouvoir. Si jamais Conley... Enfin, moi, c'est dans le sens où si Conley joue, c'est-à-dire que le backcourt Booker Chris Paul contre Mitchell Conley, moi je trouve ça, en fait je pense que les Suns ont l'avantage, mais au final ils ont l'avantage, mais c'est pas on va dire c'est pas non plus c'est pas ils ont le pas gap, ils ont pas, pas le gap est pas énorme, et après ça va se jouer au niveau du supporting cast et des talents indépendants qu'il y a autour. Et là où je trouve que par exemple Mikal Bridges sur cette série là je pense qu'il aura beaucoup plus d'importance. Il aura beaucoup plus d'importance sur Mitchell, et je trouve que Mitchell, c'est pas vraiment un joueur qui va bien à son type de jeu. C'est-à-dire que lui, c'est un gars qui est très long, qui est bon sur tout ce qui est navigation des écrans, mais Mitchell a aussi de longs bras, donc il peut aussi, notamment sur la création de la séparation, il peut arriver à se créer son tir, et aussi, et Mitchell est plus costaud, et c'est un gars plutôt athlétique pour créer de la verticalité, pour créer la séparation en avançant, entre guillemets. Il est beaucoup plus fort pour créer de la séparation en avançant. Et je trouve qu'il serait peut-être un petit peu plus mis en danger, et il faudrait absolument qu'il mette dedans. Et je pense que, d'un point de vue supporting cast, en fait, des joueurs de côté, j'ai plus confiance aux mecs d'Utah pour mettre dedans que les Crowder et même Mikal Bridges, même s'ils sont très forts. Hein. De point de vue supporting cast, quand je prends les mecs sur les ailes, je donnerais plus l'avantage à Utah. Et puis après, t'as le duel dans la raquette avec Gobert. Et du coup, là, Gobert, pour moi, il pourra pas forcément être sorti, puisque t'es obligé, entre guillemets, de faire jouer Ayton, et les autres joueurs ne lui font pas peur. La seule chose qui va faire la bascule, c'est voilà, Chris Paul à mi-distance, comment Utah arrive à s'adapter à ça, quoi.
Un Chris Paul avec un bras aussi, ça à voir comment il va
vu ce qu'il fait dans les quatrièmes cartons, il a pas un bras, le mec.
Après faut toujours relativiser, ça a été dit plusieurs fois dans le chat avec la qualité du backcourt actuel des Nuggets. J'ai inscrit ça dans le chat parce qu'on nous demandait mais ils étaient combien exactement du DH20 Mitchell et Booker. Donovan Mitchell était 19e, Devin Booker était 20e. Quand on regarde les joueurs autour d'eux, honnêtement, on est devant il y a la crème de la crème. Alors, ils vont peut-être gagner quelques places, mais c'est pour dire que je trouve que nous, si on se focus sur nous, on a été plutôt juste. Du coup, là, j'ai fait espèce de présentateur. Je vais continuer. On nous a dit une question pas mal intéressante, celle-ci. Aucun d'entre vous n'évoque un scénario, entre guillemets, réveil des Clippers au troisième match.
Ah, c'est possible. C'est possible. Moi, de mon par ouais. séquence, je les ai trouvés intéressants, moi, dans les deux matchs contre Utah. Par séquence, ce qu'ils ont proposé, la fin de premier quart-temps et le début du deuxième du match 1, je crois, où ils se prennent une sauce, là, d'entrée,
ouais.
Dès le premier quart-temps du premier match. les grands pull-ups de Mitchell. Ensuite, ça va mieux. Ou bah, mais de toute façon, c'est une équipe, mais c'est comme dans le troisième carton du, les trois premiers cartons du match 7 contre Dallas. C'est une équipe de spot-up shooter. C'est-à-dire que si il y a du drive and kick de Paul George pour Maurice, Batum, Reggie Jackson, tout ça, et puis Kawhi en iso. Ils ont deux manières de marquer. Franchement, ils en ont pas plus. Hein. Les drive and kick de Paul George, Kawhi en iso. C'est super bien, hein, mais...
Je trouve qu'avec les Clippers, on se trompe sur un truc, c'est qu'on parle trop de leur attaque et pas assez de leur défense. C'est-à-dire que quand tu... Leurs statistiques offensives sont globalement... Je pense qu'on c'est a des, peut-être des attentes démesurées pour leur attaque. On attend peut-être trop de choses de leur attaque. Et c'est la promesse de base, je vais te laisser parler, Tom. Il y a aussi la défense. Et après, c'est un thème de ces playoffs. Hein. Les défenses sont un petit peu has-been, quelles que soient les équipes. Il y a très peu... Il y a un peu des Sixers qui ont pu avoir de l'impact. On en parlera. Hein, mais globalement, moi, c'est la défense, en fait, tout simplement, qui me gêne.
Oui, bah, le truc, c'est que Taillou, c'est un coach offensif. On le dit souvent... Taillou, c'est un coach offensif et tous les ajustements qu'il fait, c'est pour améliorer l'attaque et pas forcément. Il va pas faire un truc qui va baisser son attaque pour améliorer sa défense. Taillou, il va faire un ajustement uniquement pour améliorer encore plus l'attaque. Et le problème, c'est que je pense que là, ils doivent gagner.
Tu trouvais que sortir Zubac, c'était que offensif?
Sortir Zubac. Oui, je pense que c'était avant tout offensif. Parce que c'était avant tout offensif. Alors rajouter défensivement, c'était un bon pari parce qu'il fallait rajouter des joueurs un petit peu plus dynamiques qui étaient capables de faire du edge and cover. Donc tu vois, de jouer un petit peu plus petit et tout. Mais au final, quand il a joué un petit peu plus petit, il a pas mis Beverley. Non, il a mis des shooters, il a mis des gars qui étaient capables de créer balle en main, de pouvoir profiter de d'attaquer des gars qui sont capables de voilà qui sont capables de profiter de décalages déjà faits ou de pouvoir attaquer un close-out. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont amélioré leur offensive rating plutôt que améliorer leur défense, puisqu'au final, ils se sont dit, bon, Luka Doncic, il va faire ce qu'il a à faire. Nous, il faut juste qu'on mette assez de points pour pouvoir, lui, quand il va s'affaiblir et quand il va perdre un peu d'énergie, que nous, on puisse mettre nos paniers. Donc, je pense qu'il va recommencer à jouer petit et qu'il va rajouter des Terrence Mann, des gars comme ça. Simplement, essentiellement sur la partie offensive. Essentiellement pour la partie offensive. Et là, en fait, là où je suis moins confiant, en fait, pour les Clippers, c'est que ils doivent gagner 4 matchs. Ils doivent gagner 4 matchs sur 5. En gros. Là, s'ils veulent passer, ils doivent gagner 4 matchs sur les 5 qui arrivent.
Le 7 n'est pas chez eux.
Il y en a certains qui ne sont pas chez eux. Et Utah aussi, c'est une équipe de jump shoot. Et ces mecs-là, c'est une équipe de jump shoot plus avec une sélection de tirs très hyper analytique. Du coup, je me dis que ça va être, je les vois, en fait, je vois pas Utah en période 4 sur 5.
Ouais,
parce que je pense qu'à la maison, là, ils vont faire un split. Il y aura peut-être 4-2 et Utah va finir. Il y aura peut-être 3-2 et Utah va finir, je pense.
Alors beaucoup, forcément, les Clippers sont toujours réagir. On va éviter de trop parler des Clippers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Demarcus, je pense que c'est Cousins, même sur une jambe, je l'ai trouvé intéressant. Il apporte un peu d'impact, mais il peut pas jouer très longtemps sur une série de playoffs comme ça, je pense. Ça paraît compliqué, surtout si Kawhi se fait lock par Bogdanovic. L'effectif global du Jazz a une marque énorme sur celui des Clippers. Ibaka manque tellement, c'est leur Griffin meilleur en défense, je pense qu'Ibaka. Après, quand tu es perçu comme une équipe qui doit gagner le titre, t'es pas censé, en demi-finale de conférence, être un high-back après, de prendre 2-0 sur les deux premiers matchs où t'es... Alan a parlé de réaction, je suis d'accord avec lui, mais c'est un peu du classique Clippers. Ils réagissent dans la deuxième mi-temps du match 2. Les gars, vous avez pas l'avantage du terrain, vous êtes en train de perdre le deuxième match. La réaction, elle doit pas arriver... À ce moment-là, elle doit arriver beaucoup plus tôt. Et puis, je sais, on parle beaucoup de Paul George. Paul George qui est en train d'avoir une habitude de scorer beaucoup et des shoots qu'on attend de lui en fin de match quand les Clippers sont bien souvent dépassés, ils ne peuvent plus revenir. Ça encore, ça prouve qu'il peut encore les prendre, ces pull-ups. Il peut encore le faire. Donc, je trouve ça extrêmement... je trouve ça extrêmement frustrant et j'avoue que si ces Clippers la tombent, pour moi, il va falloir faire une analyse globale. Ça va du front office aux joueurs. On nous parle de Tyronn Lue. Vous le trouvez comment sur le coaching un peu à la traîne? Mais je trouve que ces joueurs lui offrent pas des grandes capacités. Son effectif est pas super bien construit, peut-être. Et j'entendais ça dans un podcast. C'était Ben Taylor qui disait ça. Kawhi a demandé à jouer avec PG. Peut-être qu'il a peut-être qu'il avait pas compris que le fit était pas si évident que ça aussi. Enfin, tout le monde doit être remis. Enfin, quand tu perds, tu n'atteins même pas les finales de conférence. Quand tu as cet investissement-là, il va falloir remettre en question un peu tout ça. Alors, c'est marrant de voir comment être un petit marché leur permet aussi de ne pas prendre les critiques sur le style de jeu. Le Jazz, c'est les Rockets de D'Antoni dans le style, mais personne critique. C'est pas aussi extrême.
On critiquait pas le Jazz, on critiquait pas D'Antoni en plus, mais.
Ah, c'est, non, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil.
Là où la remarque est juste, je pense, c'est que peut-être que ce style de jeu où prendre énormément de 3 points, etc., n'est absolument pas critiqué quand c'est le Jazz. C'est vrai. Alors que quand c'est d'autres équipes, on parle d'un basket un petit peu caricatural, etc.
Ça, je suis d'accord. Après, faut voir comment les tirs sont amenés. Hein. Faut voir aussi comment les tirs sont amenés. Hein. C'est pas le Jazz, c'est pas, ils font pas du hand. C'est pas genre du handball, le ballon circule sur le périmètre. Ouais. C'est une première pénétration. Après c'est swing et le ballon trouve le joueur ouvert. Hein. C'est pas non plus je décale le joueur le plus proche à 3 points. C'est différent. Hein.
C'est là où c'est décevant parce qu'on va peut-être passer à l'Est à un moment, mais il y a une équipe qui a montré sur le match 3 que une équipe qui enchaîne les passes pour trouver des décalages, bah il y a un moment où tu peux couper les lignes. Kawhi l'a fait 2-3 fois. Il y a 2-3 fois sur le match 2 où tu vois Kawhi, notamment des passes qui vont vers la raquette, Kawhi les intercepte. Mais c'est le seul dont j'ai mémoire de réaliser ça. Paul George le fait pas alors que Paul George, c'est un des mecs qui est un des meilleurs intercepteurs de la ligue normalement. Enfin, bref, c'est quand même beaucoup plus collectif que les Rockets, nous dit Mathieu. Bah il y a pas en fait surtout cette idée de Mitchell, c'est pas Harden en fait. C'est ça peut-être la différence de balle. C'est Mitchell, c'est pas Harden. Donc il y a peut-être de ça, ouais.
Utah, c'est pas une équipe héliocentrée en fait.
Mais par contre, t'as Mitchell. Houston de 2018, il éclate l'Utah de 2021.
Oui, il y a pas photo. Ouais. Le Houston de 2018, c'est une anomalie que cette équipe là soit pas champagne, championne, hein.
Champagne. Ouais, mais oui, donc voilà, mais en tout cas les Clippers, on en a parlé. Denver, moi je trouve faut pas leur tomber dessus, c'est grand ce qu'ils font, ils ont plus d'équipe, enfin ils ont plus d'équipe.
Tomber sur Portland. Donc je vous propose tomber sur Portland.
Oui, ah mais c'est ça. Le scandale c'est Portland. Oui,
le souci c'est Portland, alors faut le dire.
Et le souci c'est le supporting cast de Damien Lillard, parce que encore une fois c'est la même chanson. Damien Lillard fait une série incroyable, il arrive au dernier match, il est carbonisé, il peut pas mettre des shoots, et on dit ah regardez Damien Lillard dans un match pour finir une série, sauf que le mec ça fait 5 matchs qu'il essaye de porter une équipe. Là c'est ouais, Damien Lillard, c'est, j'annonce Damien Lillard dans le DH20, et il y aura quelques surprises, des bonnes si vous êtes fan de Portland.
Ouais, il ne sera plus là à l'Est. Portland quand tu vas rester sur le DH20. Non, pardon.
Est-ce qu'en deux mots, on y croit à ça ou pas?
Non,
je crois pas.
Moi, je crois pas.
Ça fait parler un peu, ça fait activer la machine à trade, c'est drôle.
Je crois pas du tout.
Je crois pas non plus. Alors, du coup, CJ McFleury. Il y a des grosses.
Il y a des grosses blagues. C'est vrai, il est un peu en forme, CJ. Pardon.
Là, il est mince, c'est un homme marié, hein. Oui, écoute. Mais, hein. Mais...
Après, qu'on ne se moque pas des gens qui sont un peu chubby au niveau des joues.
Ouais, mais il est payé 35 millions pour être en bonne forme physique.
Ouais, mais tu peux être en bonne forme physique et avoir des joues potelées. C'est vrai. Bref. Alors, l'Est, encore une fois, je vous laisse le choix, les gars. Hawks, Sixers ou Bucks, Nets. On parle de quoi?
Trayon. Ouais, Trayon. Je jubile pas.
Je souhaite de malheur à personne. À absolument à personne. Non, en gros, c'est le match le plus frais dans ma mémoire, c'est celui que j'ai vu en dernier. En fait, Doc Rivers, il devrait mener 3-0, en fait. S'il avait pas fait n'importe quoi sur le match 1, il devrait déjà avoir 3-0 à son line-up full bank qu'il a tenté, encore une fois, juste avec du Tobias Harris. C'est un petit peu changé. Mettre Ben Simmons sur Trae Young, la longueur pose problème. Trae Young a moins d'angle de passe. Il y a toujours le boulot d'un Embiid qui va couper les lobes, même si John Collins va encore chercher des trucs qui sont totalement inhumains. Dwight Howard fait un peu ce boulot-là. Tybull fait aussi un bon match. Ensuite, Korkmaz.
Lui, c'est, Tybull, c'est n'importe quoi. Hein, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Après, je sais pas si dans sa carrière, il serait capable de jouer plus de 30 minutes à faire ça et être efficace offensivement, mais c'est pas possible, en fait, ce qu'il fait.
Mais très fort. Korkmaz, on l'avait soufflé avec Madiane dans notre épisode, devait prendre la place de Danny Green. Bon, je souhaitais pas une blessure de Danny Green, mais il le fait. Puis du côté d'Atlanta, il y a peu de solutions. Ils ont été un peu soft, je trouve, sur le match 3, et rattrapés par l'adresse. Enfin, en fait, Philly est une meilleure équipe. Embiid les a terrassés, 8 passes décisives, je crois que j'avais noté ça quelque part. C'est un record, quasi record pour lui. Les deux, il les a éclatés dès qu'il y avait une double team, et ils les ont pas trop bien exploités. Question, est-ce que Atlanta en gagne encore un, les gars?
Je pense qu'ils peuvent. Moi, je pense qu'ils peuvent.
Ils peuvent revenir à 2-2, mais.
Je vois pas Philly en gagner. En gagner 4 de suite. En plus, ils ont perdu Danny Green. Tu vois mal gagner 4 de suite. Puisque, en fait, ça te force à mettre le fait que Danny Green soit pas là, ça te force à rajouter des joueurs, tu vois. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Korkmaz, c'est aussi un peu un joueur pièce en l'air, hein. C'est un joueur au minimum. Il est pas au minimum pour rien. Il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, je trouve que, Doc Rivers, il est un petit peu plus créatif, là, pour essayer d'engager un petit peu Ben Simmons, offensivement. Puisque Ben Simmons, là, il est plus trop caché, même s'il est un peu présent dans le dunker spot. Mais il est beaucoup plus, sur le périmètre. Et quand il reçoit la balle, il reçoit un petit peu plus la balle lancée. Donc, il y a des petits systèmes, en fait, que Doc Rivers essaie de faire, justement, grâce à la présence de Korkmaz. Ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre Korkmaz et Seth Curry sur le même côté du terrain pour que tu puisses pas, en fait, venir aider ou venir taguer le rollman, puisque les deux joueurs sont de bons shooters. Et du coup, ça laisse un boulevard et un 3 contre 3 de l'autre côté. Et vu que Ben Simmons, il a souvent l'avantage de taille, ben ça lui permet aussi d'être un petit peu plus engagé quand il est servi en mouvement et d'aller au cercle, puisqu'il n'y a pas d'aide possible. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'ils auront besoin de Ben Simmons pour aller le plus loin possible.
Beaucoup de systèmes, Ben Simmons dos au panier, et ensuite, ils n'ont pas eu la solution, en fait. Il a été trop grand. Je pense que pour un fan de Philly, c'est un peu l'illustration de l'expérience Ben Simmons. Ce match, il marque 2 points dans la première mi-temps, je crois. Il en marque 12 ou 13 dans le troisième quart-temps, beaucoup plus agressif. Alan, tu doutais même que les Hawks sont en capacité d'en prendre un?
Oui, parce que même si j'adore les Hawks, le match 1, c'est un barrage à 3 points sur le premier quart-temps, couplé avec, comme tu l'as répété souvent, un 5 full banc sur la fin du premier quart et le début du deuxième, où en fait, il passe de plus 8 à plus 22, limite, en un claquement de doigts. Et ensuite, bah, ils reviennent, mais il y a quelques gros shoots de la part de Trae Young et Bogdanovic pour terminer le match. L'absence de DeAndre Hunter, elle est très très problématique, parce que je vais pas voir Solomon Hill starter un match de playoff, malheureusement. Les minutes sans Capella, c'est Okongwu, et Okongwu, c'est un rookie, donc un rookie backup intérieur, ça veut dire qu'il va se faire cibler sur le jeu de playoff, et donc c'est problématique. Et puis voilà, ils sont un petit peu courts. Je suis assez déçu de Gallinari, même si parfois il met des shoots, c'est devenu un genre de pick and pop, j'ai l'impression. Il fait beaucoup ça.
Enfin, c'est Gallinari.
Ils ont besoin, comme dans le match 1 et dans la première mi-temps du match 2, que leur troisième meilleur joueur, ça soit Werther. Et donc, j'adore Werther d'ailleurs de plus en plus. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il est super bon. Ils n'avaient pas recruté Bogdanovic, je pense qu'il serait titulaire au poste 2 avec Trae Young. Alors, il serait sûrement moins bon, parce que Bogdanovic est un super bon joueur, mais avoir Werther en sortie de banc, c'est vraiment bien. C'est un joueur super propre. Et puis, tu nous posais un peu, je pense que tu vas poser la question aux gens du chat, mais Trae Young, pour moi, là où il est devenu super fort, c'est qu'en fait, il arrive à peser sans son adresse extérieure dans cette série. Parce que même sur le début des playoffs, il n'est pas extrêmement adroit. Mais il pèse énormément, parce que c'est le meilleur, c'est pour moi un des trois meilleurs passeurs de toute la NBA, je pense. Et je pense que c'est un des 5 meilleurs attaquants de toute la ligue, quand tu l'as dans ton équipe. Donc il pèse sans ça, il va sur la ligne quand il veut. Après oui, il y a les problèmes de taille et de Simmons qui l'embêtent, mais il reste extraordinaire pour son âge, je trouve.
Ouais, en plus, après, il n'y a pas pire comme traitement non plus. Tybull Simmons, il n'y a pas pire comme traitement sur les lignes arrière aujourd'hui, NBA. Hein.
Qu'à voir ce qu'il a fait à Danny Green dans le match 1.
Mais être un top 5 NBA en attaque, techniquement, t'es toujours censé atomiser Danny Green. Enfin, top 5 NBA. Vous, les gars, vous reprenez le DH20. Top 5 NBA.
Il a précisé en attaque. Je pense d'un point de vue, tu parles.
Il te permet d'avoir une attaque élite, par sa présence sur le terrain.
Donc les Hawks là sont élites en attaque.
Ça dépend ce qu'il y a autour aussi.
Les Hawks offensivement, oui, ils sont élites. Là, ils jouent contre
ils la. Ils sont pas élites cette année.
Mais ils jouent contre.
Il y a 5-6 équipes meilleures qu'eux offensivement cette année.
Parce qu'il y a des attaques historiques aussi. Il y a des.
Ah, mais le concept d'être élite, c'est que tu dois être dans la.
Mais ils sont. C'est une des meilleures attaques de toute la ligue, les Hawks. Ils jouent contre les Sixers. C'est une des meilleures défenses.
Ouais. Le pire, c'est que les Sixers offensivement, c'est l'une des meilleures équipes des playoffs offensivement, les Sixers. Là, hier encore, ils font 132 d'offensive rating parce que ils mettent tout à l'intérieur. Et c'est là que tu vois aussi la différence de taille, c'est-à-dire que à chaque position, t'as un décalage au niveau de la taille et de la puissance. Joel Embiid, il y a pas photo, même Tobias Harris, il se promène, il shoot au-dessus de la tête de tout le monde, Tobias Harris. Pourtant, Tobias Harris, enfin, comme tu t'aimes le dire, il y a ce discipline, c'est un gentil. Mais le mec, il score au-dessus de la tête de tout le monde. Les joueurs sont, en fait, les Hawks, là, j'ai vraiment l'impression que les Hawks sont beaucoup trop petits, en fait, pour cette équipe de filles. Et ils se font punir. Quand t'as un joueur qui passe son vis-à-vis, par exemple, il tourne le corner pour aller attaquer le cercle, ben, John Collins, ça dissuade pas des masses, en fait.
Ils en mettent beaucoup sur sa tête.
Et même quand les mecs qui sont censés taguer leur rôle, les protéger l'intérieur quand un des joueurs.
Ils sont sur leur meilleur défenseur, Tom.
Bogdanovic, Trey Young.
Et un joueur qui, franchement, pour moi, était impressionnant en défense cette année. Hunter, il manque trop. Harris, il se balade.
Ouais. Et même la taille de Redditch, ça manque un peu, tu vois.
Tony Snell est plus petit, quoi, donc.
Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui illustre mieux ça que la séquence sur fin troisième, Embiid, le pauvre rookie au Congo, là, il peut pas voir le terrain. un pivot undersized rookie contre Joel Embiid, même sur un ménisque, c'est pas possible, ça ne marche pas. Alors un peu de chat, ça fait longtemps. C'est incroyable la progression de la gestion des double teams de Embiid cette saison, un vrai progrès. Il a
trop fort.
Je pense que c'est un développement dans sa carrière, mais là il l'a mis à contribution.
Il est vraiment trop fort.
Rivers abuse trop avec ses rotations full banc. Il doit réduire sa rotation, mais il a l'intelligence d'adapter les minutes en fonction de qui est chaud ou non. Sur le moment, ce que vont faire un peu tous les coachs. Après, je pense que dans notre analyse, ça pèse beaucoup son erreur sur ce qu'il a pu faire dans le match 1. Je ne comprends pas vos remarques sur la qualité d'Houston 2018. Vous comprenez-vous vraiment les stats? Oula. Une moyenne n'empêche pas les valeurs extrêmes comme lors du match 7. Alors, on ne parle pas du match 7, on parle du fait que dans une année, entre guillemets, normale, les Rockets devrait être champion. C'est-à-dire, c'est une équipe qui fait partie de ces équipes. On vous invite à écouter ce podcast-là où on disait tout simplement que certaines équipes dans une année normale auraient pu être championnes. Ces Houston Rockets-là ne l'ont pas été, alors qu'ils ont le profil d'une équipe championne.
Ils sont tombés la mauvaise année. Ils ont été championnes, si on regarde les indices statistiques.
C'est ça. C'est ce qu'on dit. Bien sûr, on comprend que tu peux forcément avoir des matchs sans. Mais l'idée, c'est que leur niveau était celui d'un champion. Exactement. Ils sont tombés la mauvaise année. Alors, qu'est-ce qu'on
peut
rajouter d'autre?
Ça va vite sur Rivers, parce que là où il prend un peu les foudres dans le premier, malgré lui, on ne sait pas si c'est vraiment sa faute, mais tout le monde dit ah, c'est super. Parce qu'en fait, dans le match 2, moi je l'ai vu en direct, le match 2, je ne sais pas vous. Alors, ça commence super bien pour Philly, ça commence super bien. Mais ils reviennent, Atlanta. Ils reviennent dans tout le deuxième. Ils sont devant dans la moitié du troisième. Et là, je me dis, ouais, si ça arrive dans la fin de match et tout, on ne sait pas. Et puis, il met Shake Milton. Et Shake Milton, il pète un plomb complet. Ouais. Donc, est-ce que Rivers gagne du crédit?
L'impact de Shake Milton, ça reste lunaire. Ouais.
Ah, il fait 4 sur 5 à 3 points en 8 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est Rivers qui doit gagner du crédit pour ça parce qu'il a senti le coup? Milton était sorti de la rotation sur les quelques matchs des playoffs, alors que c'était un vrai bon joueur de saison régulière pour eux. Et est-ce que Rivers doit gagner du crédit pour ça, ou est-ce que c'est un peu un coup de chance? Ça va vite, le métier de coach. Hein. C'est comme Tyron Lue, est-ce qu'il doit gagner du crédit pour avoir changé Batum? Mais tout le monde lui dit, ouais, tu l'as fait trop tard. C'est un peu ça le problème. Moi, je trouve que Rivers, franchement, ses ajustements, à part ses line-up full banc, sont vraiment pas mauvais. Alors oui, il donne des minutes à des mecs. Voilà, j'adore Tyrese Maxey. Je suis pas sûr peut-être qu'il doit voir le terrain en tant que ball handler sur une série de playoffs encore. Mais comme tu l'as dit, Ben, hier, c'est pas non plus full banc. C'est full banc plus Tobias Harris contre une équipe d'Atlanta plus petite. Et Harris, faisait vraiment un peu ce qu'il voulait dans ce fin de premier quart-temps. Ça a été aussi changé par le fait que Danny Green se fait la cheville. Et donc, tu peux plus trop vraiment.
Ouais.
Le mollet. Je sais pas, il avait la.
Il me semble que c'est le mollet.
La grande protection sur la jambe sur la fin de match après.
Ouais,
donc, je sais pas, mais ça a changé un peu. Est-ce que font Philly? Est-ce que tu startes Korkmaz? Ou est-ce que tu startes un mec en mode, comme Nate Duncan le rappelle souvent, un mec à la Keith Bogans qui jouait juste 5-6 minutes du côté des Bulls pour pas changer ta rotation, parce que j'ai l'impression qu'il aime bien Korkmaz, le banc avec Simmons ou avec Embiid ou tout banc avec Harris. Mais Korkmaz joue pas souvent avec Harris, Simmons et Embiid, mais faut voir.
On nous dit Steph Curry doit jouer ball handler quand il n'y a pas Ben Simmons. Par séquence, mais c'est pas forcément son point fort. C'est plus un shooter.
D'ailleurs, pour en parler, non, mais hier, ça double Simmons à un moment au poste. Ça laisse Seth Curry tout seul dans les coins. Je suis désolé. Enfin, je sais que tu dois choisir ton
Mais
non. Non, non.
C'est ce que nous disait. Il y avait un commentaire très intéressant qui nous disait, c'est Adrien Lecomte qui nous dit, ce n'est pas notre Adrien, je trouve que Simmons est trop respecté en attaque par les défenses et ça rejoint peut-être un peu ça.
Je pense que c'est surtout par rapport à l'avantage de taille, ça. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, il est grand,
est-ce que tu
il est puissant,
tu diras aussi dans le coin, Tom.
Tu vois, mais après c'est des trucs comme ça. Mais regarde, pour prendre un exemple, par exemple, dans la série Boston, dans la série les Nets, face aux Nets. Je me souviens d'une action qui m'avait marqué en semi-transition où Kevin Durant arrive, Kemba Walker est le premier. Kevin Durant demande la balle au poste, sauf que c'est Harden qui lui donne la balle en face du panier. Donc en gros, ce qu'il fait, il récupère la balle, ben il redonne à Harden parce qu'on double, on vient doubler Kevin Durant et Harden il a 3 points en face du panier. C'est juste que, enfin, tu pars au plus pressé, tu vois. C'est-à-dire que tu t'identifies. C'est comme pour donner un exemple de la vraie vie. Si par exemple t'es en voiture, t'as quelqu'un qui freine devant toi,
tous les deux. C'est pas
tu vas essayer d'aller sur l'autre voie alors que c'est plus dangereux, tu vois. Code, là. Tu vois, tu vas essayer d'aller sur l'autre voie alors que c'est plus dangereux.
On révise le code, Tom. Mais oui, on comprend la. Mais il y a aussi, je pense, en fait, pour moi, ça s'explique pas parce que Simmons, parfois, est pas le mec le plus agressif aussi de la NBA. Enfin, le nombre de fois on le voit sous le panier, balancer, essayer de retrouver un shooter sur l'extérieur, c'est pas, on parlera d'un autre joueur qui a un peu, qui se fait un peu taper dessus pour skills limités, c'est pas le même niveau d'agressivité. Vous voyez, tout le monde voit où je veux en venir en fait. Mais tu vois, parfois il l'a encore fait dans le match contre les Hawks. Il y a parfois il va refuser des shoots. Donc je suis d'accord avec Alan, faut parer au plus pressé. On parlait d'ailleurs petite transition. On parlait des 3 points dans les coins. J'avais parlé dans le podcast précédent du fait que dans le match 1 ils en avaient concédé 17. Les Sixers en ont concédé 3 hier. 3 points. Ils ont été vraiment grosse perte défensive, franchement. Quelque chose à rajouter, peut-être, les gars, sur cette série.
Enfin, c'est la logique est respectée. Hein. Enfin, tu vois clairement qu'il y a un déficit de talent de notre côté. Et puis c'est tant mieux pour les Hawks, tu vois. C'est une belle expérience puisque je pense que, enfin, la série face à New York, tu vois, c'était un peu. Enfin, on voyait très clairement qu'il n'y avait pas photo entre le niveau de talent
coaching
des
aussi,
équipes.
On peut le dire. Oh, pardon.
Et du coup, là, ça permet de remettre les choses et de coaching aussi. Oui, ça permet de remettre les choses aussi en perspective pour eux. Mais en tout cas, on voit que c'est une équipe qui, enfin, c'est pas démérité qu'ils soient au deuxième tour des Playoffs Atlanta. Et, mea culpa à faire sur cette équipe-là. Moi, je les pensais même pas capables d'aller en playoff. Je les voyais limite borderline playing. Ouais. Et, ils m'ont donné tort. Et c'est tout
mais
à l'heure.
Fais pas trop sourire, Tom. Fais pas trop sourire. Allez. Mais oui, on doit faire un mea culpa sur cette équipe qui a été bonne et qui faudra compter sur eux pour la suite. En à l'Est, la seule question, ça sera maintenant leur jeune contrat. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs joueurs? Parce qu'il y a déjà la décision Collins qui se pose dès maintenant. Collins qui fait un vrai match 3. Et on tombe souvent sur ce joueur-là. C'est potentiellement le meilleur Hawk sur le match 3, selon moi. Il est vraiment incisif. Il va chercher. Bon, en défense, il est toujours limité, mais au moins, il fait une bonne partition. Rivers aurait poussé une gueulante contre Simmons, d'où son réveil au retour de la mi-temps. Ça a dû être vraiment corsé parce que. Il a marqué quand même. Il a marqué 12 ou 13 points.
Ouais, je trouve magnifique.
C'est incroyable. C'est d'autant plus frustrant pour le reste. Eh ben, on va peut-être finir. Ça va plus vite que le live précédent. Je me suis dit, mais pourquoi Ben? Bah oui, parce qu'en fait, au début, t'avais 8 séries, là, t'en as 4. Donc forcément que ça va plus vite. Le Bucks Nets 2-1. Tom, avant, quand on préparait l'épisode, tu me disais en gros, c'est un 2-1, mais bon, c'est un faux 2-1, quoi.
Bah, c'est pas à cause de lui. D'ailleurs, c'est grâce à lui un peu qu'ils sont revenus dans le match. Hein.
Ouais. Pick and, dans pick le deuxième carton,
les flotteurs de Bruce Brown. Là, je vous avoue que pick and roll Bruce Brown qui met des flotteurs sur la tête de Lopez. Je me dis, il se passe quoi là? On est où?
Mais c'est vrai que enfin, le match, franchement, le match était bizarre. Il y a eu beaucoup de maladresse des deux côtés, beaucoup de petits ratés. Mais le flou de ce match-là était bizarre. Donc, tant mieux pour Chris Middleton, puisqu'il se faisait pas mal taper dessus par rapport à son début de série.
Ah, il tient son
par rapport à son début de série.
C'est beau.
Mais après, si moi je suis un peu déçu par rapport à Giannis, quoi. Enfin,
oula, les pieds dans le plat.
Si.
Voilà. On peut pas y échapper.
Non, je suis un peu déçu dans le sens où, ok, il fait un match offensif plutôt correct, mais enfin, l'absence de move, enfin, pour moi, c'est pas logique que ce soit Middleton qui doive porter l'équipe quand ça compte en fin de match. C'est lui qui met tous les points.
Saison régulière.
Est-ce que c'est une surprise aussi, Tom?
Est-ce que ça change de la saison régulière, comme dit Ben? Est-ce que c'est une surprise?
C'est pas une surprise, mais tu vois.
Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça?
Oui, mais à un moment, tu vois, il a brûlé Griffin en ISO. Fais un truc, fais un... Toi, fais un petit... Rapproche-toi, fais un petit pull-up, un truc, un easy pull-up.
Est-ce qu'il a le skill set pour le faire, Giannis? La question, elle est plus que ça. Tom.
Mais il faut qu'il puisse, tu vois. Il faut qu'il puisse. Tu peux pas faire que courir et aller dans la raquette, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, Blake Griffin, il t'attend. Et sachant que Blake Griffin, c'est pas le mec le plus mobile du monde. Alors oui, dans ses passages à Détroit, il a été plutôt intéressant face à Giannis. Mais là, c'est plus le même Blake Griffin. Le mec, il t'attend, bras ouverts, tu dribbles, t'essayes de le fixer, machin, finalement, tu recules, tu retournes.
Je suis archi surpris de voir Tom critiquer Giannis sur tout ça.
C'est gênant. Parce que moi,
je pense qu'on en a marre, tout le monde en a marre. Je pense, on nous demande, vous êtes déçus de la série de Giannis? Je pense que tout le monde en a marre, en fait.
Après, défensivement,
je suis pas surpris, en fait, les gars. Je suis pas surpris. Mais je le trouve incroyable par séquence, Giannis, moi. Je crois que c'est dans le match 1, par moment. La surdomination, mais c'est parce que quand c'est de la transition et du. Moi, je suis déçu de Budenholzer. Je suis désolé, je préfère tomber sur Budenholzer. Alors.
Le premier commentaire qu'on avait eu sur ce débat-là, c'était Firebud. Donc, continue. Tu es dans le thème.
Non, parce que tu l'as super bien dit dans le podcast avec Madian de après match 1, avant moi, match 2, je crois. Bon, les rotations, les gens parlent souvent des rotations en mode il a sorti lui pour faire le mettre lui, mais en fait, c'est pas vraiment ça ce que tu avais dit sur les fautes, notamment, ça m'a vraiment fait réfléchir et il l'a refait, c'est-à-dire sa frilosité. Alors, et ça, Stevens, c'est un truc que j'aimais bien chez lui, il n'avait pas cette frilosité sur les fautes, c'est-à-dire, des fois, il anticipe une prise de faute à Budenholzer dans 3 minutes et donc il sort. Je crois que c'est PJ Tucker ou Brook Lopez par moment, pour mettre Bobby Portis ou Pat Connaughton, je crois, Pat Connaughton qui a joué pas mal de minutes. Mais non, mais là, c'est les demi-finales de conf contre la meilleure équipe de la Ligue. Tu perds avec tes armes, tu perds avec, ok, PJ Tucker va prendre ses 6 fautes, Brook Lopez va prendre ses 6 fautes, tu perds avec tes armes. Jeff Teague a revu le terrain dans le match 2, c'est pas possible. Alors, je crois que le match 3, il joue pas, mais le match 2, il revoit le terrain. C'est pas possible. Ok, justement, sur le match 3, je suis content. Pareil, pick and roll, Middleton, Giannis. C'est tout le temps la même chose sur la fin de match. C'est tout le temps l'un ou l'autre qui porte la balle, l'un ou l'autre qui pose l'écran. Mais où est Jrue Holiday? Pourquoi tu l'as fait venir? Pourquoi tu l'as fait venir? Si tu veux jouer avec un... Si tu veux... Je vais me dire un truc de fou. Hein. Si tu veux jouer comme ça, mais mets pas Jrue Holiday, mets un spot-up shooter sur la fin de match. Parce qu'en catch and shoot, il y a sûrement mieux que Jrue Holiday. Jrue Holiday, il est super fort. Il mérite d'avoir un autre rôle, je trouve, dans la fin de match. Moi, je trouve dans le match 1 et par séquence dans le 3, c'est le plus intéressant. J'adore ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est sur la situation de transition. Il pousse fort la balle. Il voit qu'il y a un plus petit et il va mettre un petit flotteur, un petit shoot à mi-distance comme ça. C'est le but. Je regarde trop l'euro. Le panier de la gagne dans la 3, bon, je trouve la décision elle est un peu couillue parce qu'il reste 20 secondes et tout, ou 15 secondes, mais c'est lui qui y va. Il voit un plus petit et j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'insistance pour essayer de trouver des match-up intéressants pour Jrue Holiday. Voilà. Je trouve que malheureusement, on tourne dans une caricature où Bud, il donne la balle à Middleton, il donne la balle à Giannis et malheureusement, sur la fin de match, je trouve ça un peu. Il faut le tomber dessus, quoi.
Il profite pas de la taille, de la force physique qui, Brook Lopez au début, enfin, dans le match 1, il pose quand même quelques problèmes. Je pense qu'ils ont été peut-être traumatisés par le fait que, Kevin Durant, contre Lopez quand elle a des positions, et au final, ils jouent carrément plus cette play-là où, t'as un seal de Lopez qui est près du panier.
Alors que ça fatigue KD en plus.
Faut le faire, tu vois, ça fatigue ces gens, mais quand tu vois, même sur la prise de position, Kevin Durant, il se bat vraiment pour pas se faire enfoncer sous le cercle. Mm. Et du coup, c'est quelque chose que tu gardes après au niveau de tes jambes, et puis en attaque, t'es beaucoup moins fluide. Et puis, sans Harden, il a beaucoup plus de responsabilités offensivement, il a beaucoup plus de choses à faire, en fait, Kevin Durant. Il ne doit plus se concentrer uniquement du scoring, mais aussi, il est aussi obligé de se charger de la distribution, puisque c'est pas quelque chose que Kyrie Irving va faire. Donc là, il est obligé de se transformer un peu en homme orchestre, tout en étant le point d'ancrage défensif. Et on l'a vu, toutes les situations qui arrivent dans les mains de Bruce Brown, c'est décalage, trappe sur Kevin Durant, machin. Enfin, il peut pas aller plus loin, il prend pas le pull-up, il décale Bruce Brown et Bruce Brown essaye de finir. Toutes les situations, c'est ça. Hein.
Mmh. Alan, tu as aussi, les gens sont d'accord avec toi sur un truc que tu n'as pas dit, mais dont je sais que tu... énerve particulièrement, c'est Thanasis qui énerve aussi les gens.
Insupportable.
Tiens, lui aussi il est dans le payroll, tu vois. Lui aussi il est dans le payroll.
Thanasis, si j'étais costaud, je lui rentrerais dedans comme le bodyguard de KD sur Tucker.
Voilà. Thanasis, il y a une séquence dans le match 3, je crois c'est fin de premier quart-temps ou fin de deuxième, quand c'est un peu dans le momentum des Bucks, il provoque un passage en force, il commence à applaudir comme un fou. Ouais. Il est comme un ouf et tout, genre c'est bon, t'as mené 2-0 quoi.
Après, c'est un peu folklorique, donc...
Oui, voilà, mais quand il joue contre toi, je pense que ça va être insupportable.
Mmh. Ah ouais, totalement. Bah, du coup, pour un peu résumer ce que vous avez dit, je suis assez d'accord sur... En fait, on est surpris, mais je pense qu'il amène notre surprise, Alan, c'est... Je pense que c'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais jouée. Donc c'est d'autant plus frappant. C'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais jouée. Donc là, tu te dis... Enfin, nous, c'est naturel, les meilleurs joueurs, on attend qu'ils subliment à ce moment-là. Et tu vois que Giannis, il peut pas. Enfin, tu vois que Giannis, il y a un moment où le bagage technique est limité. J'ai une stat sur ça, les gars, qui est incroyable. Giannis a donc pris 8 3 points sur ce match-là, contre les Nets.
Oui, c'est vrai, ça.
Il a joué les Nets à domicile 3 fois cette saison. Sur les 3 matchs cumulés, les gars, il a pris combien de 3 points, selon vous? 3 matchs cumulés. Il est déjà 8 sur 1. Vous rajoutez 2 matchs.
10.
Vu qu'on a un petit décalage avec le chat, je vais laisser un peu la question. Alain dit 10, tu dis combien, Tom?
Je dirais 12.
Ok, donc il n'en aurait pris que 4 dans les autres matchs, en gros. 2, 3, ok. Alors, juste pour continuer, je pense que c'est une déception qu'on a globalement, c'est que oui, Giannis, en fait, a très peu de skills, on l'a dit. Moi, j'avais insisté sur le fait, selon moi, il devait prendre quelques shoots à 3 points, c'est pas 8. Mon idée, c'était pas 8. C'était juste de parfois montrer qu'il y avait cette inquiétude-là au niveau de la défense. Après, vis-à-vis de Giannis, par rapport à ce que tu dis, Alan, aussi, sur un Jrue Holiday, je pense qu'un Jrue Holiday, il est pas en capacité aussi peut-être d'avoir l'impact qu'on lui prête, parce que encore une fois c'est une série de très très haut niveau là dont on parle, c'est les fins de match,
et puis en défense aussi,
il se met par terre énormément
d'énergie sur Kyrie,
il se met par terre en défense, au niveau offensif, alors c'est certes un joueur solide mais il a pas le skill set d'un top 20 NBA, enfin, donc je pense que c'est lui demander beaucoup, et ça a été dit dans le chat, mais les fins de match où un Kevin Durant te met des shoots impossibles, on sait qu'un Kyrie Irving a aussi ce potentiel là, c'est difficile pour un Jrue Holiday d'avoir ce rôle là, même pour un Chris Middleton, tu vois, qu'il doit mettre des shoots très très difficiles, en fait il se procure très peu de shoots faciles, donc pour eux globalement c'est une série où on voit leurs limites. Après, pour revenir sur ce que t'as dit, Tom, aussi, je trouve qu'ils ont été traumatisés par les deux premiers cartons du match 1. Ils pensaient pouvoir leur rentrer dedans physiquement. Ils ont vu qu'ils pouvaient pas. Il y a eu la blessure d'Arden qui les a un petit peu choqués. Et depuis, t'as l'impression que le logiciel Bud, il est détraqué. Il comprend pas, en fait. Et pour vous donner la réponse, on nous a dit 15 dans le chat. Sur 3 matchs à domicile contre les Nets cette année, Giannis, il a pris 28 3 points.
Ah ouais? 28 3 points?
28 3 points. Il en prend 12 dans un match de saison régulière. 8 là, et 8 encore une fois. Cherchez pas, depuis le début de cette saison, il a que 4 matchs où il en prend 8 ou plus, c'est les 3 contre les Nets et le premier contre les Celtics.
Ouais, on l'avait laissé shooter à chaque fois.
C'est qu'il perd celui contre les Celtics, mais égale les 3 contre les Nets. Ce qui prouve bien que les stats, tu peux pas te baser sur une stat pour faire une analyse. Parce qu'il fait du 1 sur 8, du 4 sur 12 et du 4 sur 8. Elles sont où mes stats? Il est à 9 sur 28. En tout cas, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que cette défense des Nets lui pose un problème et que du coup, il se réfugie dans le tir à 3 points qui est, on le sait, une solution de dernière. C'est sa dernière solution, hein, Giannis.
Ben, surtout que Giannis, c'est le joueur qui a le plus de variance négative entre un jump shot et une finition. Enfin, quand tu prends l'efficacité globale de Giannis,
Simmons peut-être, ouais.
Si, enfin, dans la hiérarchie des shoots qu'il prend, ce qui est beaucoup plus rentable pour lui, c'est tout ce qui est en dehors du jump shot. Donc du coup, échanger un jump shot en plus à 3 points contre, je sais pas moi, quelque chose de plus proche du cercle ou une petite finition avec la planche après son fameux spin, bah au final dans son apport offensif, et même face à Miami, offensivement, il était un peu en dedans, hein, Giannis. Hein.
Ça prouve bien que, alors c'est plus simple, mais qu'il y a des choix qui sont faits de la part du staff de Brooklyn, enfin, tout simplement. Ça prouve bien que on peut faire des choix quand on joue contre Giannis Antetokounmpo. Là où, quand on joue contre LeBron, KD, et sûrement Kawhi,
Steph Curry,
on peut pas. Ce qui prouve bien que peut-être pour le DH20, eh ben, on avait peut-être pas forcément tort de le mettre un petit peu plus bas, alors qu'il sortait quand même de double MVP et défenseur de l'année. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui manque aux Bucks? Bah, il manque Bogdanovic, en fait. Cet autre créateur. franchement, Bogdan, il est bon même. Il est même encore hier contre Philly. S'il n'est pas là au premier carton, il y a déjà blowout. Il manque ce gars-là.
Très fort.
Ce gars-là, en fait, qui permettrait. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que si Bogdanovic est là, vous pensez qu'il fait autre chose que d'être un spot-up shooter dans les fins de match? C'est une vraie question. Questionner Bud et questionner Giannis en réalité. Si Bogdanovic est là, est-ce que ça change quelque chose sur schématiquement ce qui se passe dans les formats? Je suis même pas sûr que oui, en fait.
Je suis d'accord.
Je pense, puisque.
Vas-y, Tom.
Moi, je pense dans le sens où, d'un point de vue skill set, c'est pas un standstill shooter, en fait, Bogdanovic. On le voit dans ses playoffs, ce qui marche, c'est la multiplication des joueurs qui sont capables de faire quelque chose avec la balle en main. Si tu. Voilà, c'est ça, ce qui marche, puisque tu peux pas tout stopper. Enfin, parfois, dans certaines séries, tu peux rien stopper. Donc, du coup, vaut mieux améliorer ton attaque et pour pouvoir contrecarrer et profiter de tous les mismatchs que tu peux obtenir. Puisque, au final, tes mecs qui peuvent que shooter, ben, ils sont neutralisés soit parce qu'on va, entre guillemets, neutraliser leur source de balles qui leur donne des ballons propres, où ils ont juste à shooter, ou sinon, on va juste pas les défendre. Et à partir du moment où, si tu peux faire que shooter et que tu rates 2-3 d'affilée, ben t'arrêtes d'en prendre. Et quand t'arrêtes d'en prendre, tu vas essayer de te rapprocher du cercle. Mais comme t'as pas de jeu forcément intermédiaire, parce que c'est plus trop dans ton jeu d'aller, ben, tu te neutralises tout seul, tu es plus jouable. Donc je pense que si jamais ils avaient cette arme en plus à leur disposition, même DiVincenzo, tu vois,
ouais,
DiVincenzo, c'est quelque chose qui apporte, il est plus polyvalent, c'est un joueur plus polyvalent, c'est un peu leur couteau suisse, DiVincenzo. Et là, tu vois clairement qu'il leur manque ce gars-là, quoi.
Après, là où je suis peut-être d'accord avec Anne, ça changera peu de choses, peut-être, parce que là, c'est plus du terrain, c'est plus de la tactique, mais Giannis Antetokounmpo, double MVP, défenseur de l'année, je me bats avec une mouche depuis le début de ce podcast, c'est affreux, je sais pas si ça se voit sur l'image. Ça va être compliqué quand même de lui enlever la balle des mains dans une fin de match. Parce que concrètement, on parle de ça, les gars.
Ouais,
on parle de lui réduire son nombre de ballons dans une fin de match. Parce qu'on va pas les retirer à Middleton, les ballons. C'est à peu près le seul qui a ce skill set-là. Donc, les enlever d'un Giannis, quand tu vois le début de match 3 de Giannis, qui est extrêmement agressif dans la peinture, etc., qui prouve qu'il veut être impliqué, qui prouve qu'il... Voilà, il veut avoir une importance dans cette attaque et il doit en avoir une parce que Giannis Antetokounmpo est trop physique et trop bon à la finition pour être totalement mis de côté. Mais d'un côté, dans une fin de match, c'est compliqué de réduire son importance. C'est pour ça, ça demande un truc plus global en fait. On le dit souvent, mais que Giannis, le staff, etc., lui fasse comprendre que c'est un pivot en fait. Et là, l'équation changerait. Mais après, oui, c'est vrai que un Bogdanovic ou DiVincenzo apporterait des compétences différentes. Mais encore une fois, est-ce que Bud ou Giannis vont se dire, bon bah je vais donner cette balle au joueur là et moi je vais un petit peu limiter mon nombre de ballons. Personnellement, j'y crois pas.
Pareil, je veux le voir pour le croire en fait.
On insiste pas mal dans le chat sur la défense des Nets, mais à coup de pas, Blake Griffin peut jouer en playoff. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est vrai.
Bruce Brown est bon.
Enfin, il est pas. Ouais, ils sont bons, ils font. Après, quand t'es aussi efficace en attaque, ta défense, du coup, enfin.
Franchement, ils sont sans Harden, ils sont à rien d'être à 3-0 contre Milwaukee, quoi. Faut quand même se. Là, c'est de la marge qu'ils ont, elle est. C'est impressionnant, franchement. C'est.
C'est ça, les minutes d'Harden, là, aujourd'hui, c'est Landry Shamet et Mike James hein, qui les prennent.
Oui, c'est vrai. Et c'est Bruce Brown qui
finit. Quand ces gars-là sortent de la rotation.
Dans le match, de la fin de match, là. T'as Harden sur le terrain quand personne met un panier, ça change, hein, je pense que ça change un peu. Milwaukee, je me rappelle, on en parlait en live et tout, personne mettait trop de messages, mais Milwaukee, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de chances de s'en sortir, là, sur le match. C'est une parodie de basket, la fin de match offensive, un peu des deux équipes. Ils ont vraiment de la chance de s'en sortir là-dessus. Brooklyn ne fera pas autant de bêtises offensives sur une fin de match comme ça sur ses playoffs. Enfin, je le pense. Hein. Donc, on était très très proche du 3-0. Alors que là, le 2-1, tu peux te dire. Alors qu'en fait, là, il y a 2-1, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je vois toujours Brooklyn gagner cette série.
Ouais.
C'est mon tour. C'est mon tour d'achoumer. Je ne sais pas si c'est un verbe. Du coup. Les gars, je pense que, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette série ou est-ce que je vous mets sur le grill? Parce que j'ai un petit truc pour la fin du podcast. Je l'avais annoncé pour le podcast précédent, mais on va le faire maintenant. On avait fait notre power ranking pré-playoff, qui avait donc mis les équipes, qui avait donc rangé les équipes selon leur capacité à aller le plus loin. Alors déjà, les Lakers ne sont plus là, le Heat n'est plus là, les Clippers sont sous assistance respiratoire. Question, top 5, c'est peut-être un peu difficile. Un top 3 pour le titre, on est donc le samedi 12. Vous mettez qui? Et je demande au chat. Je suis un vrai streamer.
Faux sub.
Top 3, je dirais les Nets 1. Pour être logique, Utah 2, Phoenix 3.
Je dirais Brooklyn, Phoenix, Milwaukee.
C'est-à-dire que tu penses que Milwaukee a plus de chances que le Jazz?
C'est pas possible.
Si demain, possible. Final NBA, Milwaukee-Utah, je pique Milwaukee.
Ah. Ah, oui, c'est pourquoi son raisonnement des Nets.
Je comprends. C'est toujours un power ranking de, tu vois ce que je veux dire?
Oui, t'as raison, oui. T'as raison.
Un gars peut me dire qu'il pense que les Clippers sont peut-être meilleurs pour gagner le titre que Philly. Je peux l'entendre, tu vois. C'est peut-être faux, mais...
J'aime trop les trois qui défendent. J'étais à deux doigts de mettre les Clippers à un endroit, puis je me suis dit, non, sois sérieux, deux minutes. Nets. C'est dingue comment Nets, direct, tu vois, tu penses pas Nets, c'est après que tu commences à réfléchir. Nets, Suns, Jazz, peut-être. Il y a beaucoup de Philly, hein. Il y a beaucoup de Philly dans le chat.
Philly. Ouais. Philly a été impressionnant.
Ouais, mais après, c'est logique. Hein.
Mais Philly a joué Washington et puis Atlanta. Ça reste, même si j'aime beaucoup Atlanta, parce que...
Ça reste pas une top 5 attaque.
Tu me diras, c'est vrai que Phoenix joue un bas court, Facundo Campazzo, Monte Morris, Austin Rivers. Il faut aussi le prendre en considération.
Et surtout que Philly gagne... Aujourd'hui, Philly gagne avec l'attaque. Hein. Philly, c'est la deuxième attaque des playoffs avec un offensive rating de 123.7. Hein. Donc, oui, mais c'est ça. Ben, il gagne par rapport avec l'attaque. Tu vois, hier, le match face à Atlanta, ils finissent avec un offensive rating de 132 aussi, tu vois. Donc, moi, c'est le truc avec Philly. Il me prouve que c'est une bonne éthique d'attaque en playoff, mais en même temps, enfin, les chiffres montrent ça.
Il faut le
voir. Mais j'ai du mal à les mettre à ce niveau-là, quoi.
Plus de haut niveau.
Voilà.
Après,
c'est le niveau de Brooklyn, quoi. En offensivement,
c'est 124 offensivement. Le danger Brooklyn, c'est pas un danger défensif, c'est un danger offensif. Pour eux, en fait, même si leur production en attaque, elle dépend quand même grandement d'Embiid. Et moi, on en a pas parlé, je suis extrêmement inquiet de la façon dont on le voyait bouger dans le match 3. Je suis pas serein, je ne comprends pas. J'ai eu très peur, j'allais vous envoyer un message, les gars.
Ils vont nous faire
une Derrick Rose. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, j'avais très très peur qu'il se blesse et que, enfin, sors-le un moment. Surtout, je prêche ma paroisse. Dwight Howard c'était pas le Dwight Howard du match 1. Il était un peu meilleur. Donc, tu pouvais le remettre sur le terrain. Enfin, c'était extrêmement, extrêmement dangereux. Alors, dans le chat, on a quoi? Nets, Suns, Sixers, Suns, Philly, Nets, Nets, Suns, Jazz, parce que je vois les Nets au-dessus à l'est et très serré entre les deux à l'ouest. Suns, Nets, Philly. Ah, tout le monde ne met pas les Nets. Qui pour défendre Embiid? Bon, c'est vrai, oui. Un petit problème. Ma question subsidiaire, la même, vous commencez à la connaître. Demain, vous devez parier de l'argent. Est-ce que vous mettez l'argent sur les Nets ou sur l'intégralité des autres équipes?
Bah, ils ont plus Harden, là.
Ouais, c'est ça. Moi, je mets sur le... Par rapport au fait qu'ils ont plus Harden, je mets sur le...
Moi, je dirais sur les Nets, quand même.
Peut-être les Nets.
Je dirais les Nets, là.
Même sans Harden, faut aller... Sans Harden, ça veut dire qu'il faut finir là, faut aller en finale de conf, et après, en finale NBA, sans Harden.
Est-ce que sans Harden, tu es d'un favori contre les Sixers?
Ah.
Si tu me réponds oui et qu'ensuite sans Harden tu mets Denver favori contre Phoenix ou contre Utah, tu peux prendre le risque et jouer Brooklyn.
Sans Harden contre Philly, je suis pas sûr. Ça demande trop à Kevin Durant en fait.
Si tu joues contre Philly, c'est qui va starter au poste 5, parce que Blake Griffin il est bien gentil dans des situations d'iso et de switch contre Giannis et compagnie. Mais quand tu joues à l'Embiid,
Oui, mais est-ce que l'attaque de Philly va marcher pareil, puisque là Ben Simmons sera joué certainement différemment. Donc,
tu piques Brooklyn ou pas?
Sans Harden.
Harden, pour toi, Philly gagne et va en finale NBA.
Ouais.
Bah, du coup, tu pourrais limite mettre dans ton top 3 Philly.
Oui. Pour moi, c'est très proche entre Philly, le Jazz et. C'est juste que je me dis que Harden va revenir en fait.
J'ai pas souvenir. On nous dit qu'il va sûrement jouer. On a aucune info, les gars. Attention, pour l'instant, hein. On a aucune info et. Et alors, je suis pas médecin, mais de ce que j'ai pu lire de ceux qui sont médecins, ou en tout cas qui étudient ça, c'est le genre de blessure qui s'aggrave à chaque retour. Et il a raté une vingtaine de matchs. L'autre fois. Donc, si tu appliques bêtement le schéma, il est pas de retour pour les finales NBA. Alors, on sait pas. On sait que les joueurs reviennent en playoff plus rapidement parce que, tout simplement, c'est les playoffs. Tu as pas le choix, mais à voir. Du coup, ouais, il y a pas mal de Sixers. J'ai l'impression depuis qu'on fait le podcast, c'est l'année où c'est le plus illisible. C'est de très loin.
Mais t'as pas de, t'as les équipes qui étaient entre guillemets favorites hors Nets. Bah, t'as les Lakers qui ont été éliminés. T'as les Clippers qui sont
les Clippers.
qui sont les Clippers, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que t'as. Après, si on prend uniquement le profil statistique de saison régulière. Le Jazz est favori, mais non.
Est-ce que c'est... Je pense que c'est une résistance psychologique. On peut pas mettre le Jazz.
Ouais. S'ils sortent les Clippers aisément, au final, peut-être que la saison régulière ne manque pas tant que ça, quoi. Mais je pense que c'est psychologique le fait que... Voilà, Gobert, Mitchell... Alors oui, certes, ils ont quelques moments en playoff, mais le fait qu'on ne l'a jamais vu... Ça me rappelle un peu, tu vois, les Warriors avant qu'ils gagnent. On voyait tous le potentiel, tu vois, les Warriors de 2014-2015, où tu vois, on voyait tous le potentiel, mais le fait qu'il l'avait jamais fait, mais t'as du mal à leur donner du crédit avant qu'ils le fassent, quoi.
Je suis d'accord.
Sauf qu'au final, peut-être que Utah c'est un vrai contender. C'est juste que comme ils ont jamais fait avant, on a du mal à les mettre à ce niveau-là.
Quelques questions du truc de saison régulière, ils ont quand même avec Mitchell un joueur. Qui casse un peu ce délire que les Hawks n'avaient pas, par exemple, de 2015 sur le délire d'équipe de saison régulière.
Ça n'a rien à voir.
Le fait d'avoir Donovan Mitchell, il répond un peu aux questions qu'on s'était posées sur c'est quoi une équipe de saison régulière et comment passer un cap. Le fait d'avoir Donovan Mitchell aujourd'hui te permet d'être un petit peu plus que ça, je pense.
Puis c'est pas aussi le même Donovan Mitchell. Ça fait deux fois où on voit que Donovan Mitchell, une fois passé en playoff, sur les ISO, etc., ça devient un autre joueur. Donc il y a de ça aussi. C'est aussi parce que l'équipe n'est pas techniquement la même aussi. C'est ça aussi, ça change beaucoup. Je me faisais une réflexion, mais du coup, on s'achemine, on l'a dit, vers un Suns Jazz, visiblement. On s'achemine aussi vers une de ces deux équipes en finale NBA. Ça va faire très longtemps quand même qu'on a eu une finale NBA où on n'a pas... Je vais prendre le DH20 d'avant-saison, un des participants qui a pas un top 10 NBA consensus, quoi. Parce qu'il y a alors on peut dire ce qu'on veut, on peut réécrire l'histoire, personne mais aucun joueur du Jazz et des Suns dans le top 10 NBA avant le début de la saison. Donc à voir dans nos conclusions si je veux pas tout mettre sur le dos de cette année un petit peu particulière, mais voir à quel point ce qu'on voit sur les deux saisons est réel aussi, enfin à quel point simplement. Ça fait beaucoup de réflexions Vraiment, Mitchell est trop mal défendu, je trouve. C'est Adrien qui nous dit ça. Il met des shoots incroyables. Il met vraiment des tirs incroyables. Je pense qu'on sous-estime ses qualités athlétiques. C'est qu'il est très très athlétique et du coup, il peut créer beaucoup de séparation. Il met des pull-ups incroyables.
C'est un peu comme Jamal Murray l'an dernier. Comment tu voulais défendre ce genre de coup de chaud et de type de tir avec en plus cette la vitesse avec laquelle il arrive et qui tranche le pick and roll. Et puis ensuite, c'est Bogdanovic dans un coin, Ingles dans un autre, O'Neal dans un coin. Si tu close out, bah, disons, il est mal défendu. Alors, si tu, il passe le pick and roll, il arrive. Si tu close out, bah, il va kick à droite ou à gauche. Et ils n'arrêtent pas de mettre tout dans les coins depuis les deux matchs. Ouais. Donc, au bout d'un moment, bah, faut-il se dire qu'on est en 2021 et qu'il y a des schémas offensifs qui ont été trouvés par des mathématiciens et par des front office NBA qui sont malheureusement, si l'adresse environnante de ta superstar est forte, indéfendable. Je pense qu'il faut se le dire aussi, au bout d'un moment. Les Clippers, défensivement, sur le papier, sur ce qu'ils ont montré par séquence, ça peut être une très bonne équipe défensive. Après, ils ont, oui, peut-être pas ce chien de garde pour prendre Mitchell, mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça un peu surcoté. Les pull-ups comme ça, au bout d'un moment, tu les arrêtes pas.
Mais c'est le joueur qui, de Mitchell, c'est le joueur qui pull-up le plus athlétique de la NBA. Hein. Quand tu prends tous les mecs qui sont capables de pull-up, c'est le joueur qui, enfin, c'est le plus athlétique. Hein. Parce qu'il se rapproche, du cercle. Et aussi, ben voilà, la longueur de bras, les angles qu'il arrive à trouver grâce à ses longs bras, tu vois. Enfin, même si tu vois Kennard, il se fait souvent dépasser. Il oppose quand même un minimum de résistance. Mais tu vois, au moment du bump, de Manichel recule un peu, tu vois. Mais il a quand même la longueur de bras pour garder le ballon haut et trouver l'angle avec la planche, tu vois. Enfin, ça, c'est des attributs physiques. Lui aussi dans son style de Van Mitchell, c'est un scoreur, enfin t'en as pas beaucoup des mecs comme ça. Ouais. T'en as quasiment pas des mecs comme ça dans la NBA.
Il a la puissance du haut du corps aussi qui peut lui permettre de faire beaucoup de mal dans la raquette et tout. Ouais. Non, il est très très bon et ça nous forcera à réévaluer aussi où on met un Donovan Mitchell. J'avais bientôt plus de batterie, c'est bon, c'est réglé. On va être obligé de le réévaluer parce que encore une fois on a deux campagnes de très très haut niveau. Mais du coup, je sais pas ce qu'on peut dire de... Ah, peut-être, allez, pour finir aujourd'hui, j'ai du mal à voir l'utilité de Gobert dans une finale contre les Nets. Est-ce que c'est donc face à ces Nets-là qu'un Rudy Gobert, potentiellement, sera, entre guillemets, sorti du terrain?
Non. Je pense pas, tout simplement parce que le Jazz ne peut pas jouer comme il joue, comme l'a dit Alan souvent, le Jazz ne peut pas jouer comme il joue sans Rudy Gobert. Et au bout d'un moment, te priver d'une de tes forces pour t'adapter à ton adversaire, ben tu vas aller sur le terrain de ton adversaire et tu vas t'affaiblir en ne jouant pas sur tes propres forces. Donc je pense qu'il faut qu'ils continuent à jouer avec Rudy Gobert et ils iront jusqu'où les limitations de Rudy Gobert les emmèneront.
Si t'enlèves Rudy Gobert, ça veut dire quoi? Ça veut dire favors en 5? Plus de favors, donc défensivement, ça veut dire que tu vas te faire éclater sur Bogdanovic va se faire cibler. Ah, c'est compliqué. Ils n'ont pas le matériel, je pense, le Jazz, pour jouer différemment. Ça marche de jouer comme ça pour eux, et ils n'ont pas d'alternative.
Puis Gobert est plus... On parle beaucoup de ça pour Jokic, mais Gobert est plus fin, plus élancé. Il est moins... Il se fait, entre guillemets, cette théorie de... Il se fait sortir. Je le trouve plus explosif, plus intéressant. Ça, on l'a vu contre les Clippers, qui, clairement, je pense que la prochaine stratégie de Lou, il va jouer petit. Et je pense qu'il, même là... qui était la peur un peu de tout le monde, je pense que même là, ils ne sortiront pas Gobert du terrain. Par ça, je veux pas dire que le Jazz prendra la décision de le sortir, je veux dire que son impact sera limité, voire presque annulé. Je pense pas que ça sera le cas. Cette mouche me saoule énormément. Je pense vraiment pas que ça sera le cas, et je pense que Gobert va se réhabiliter. Après, on a publié notre DH20, on a essayé de vous faire un petit peu réagir sur les réseaux sociaux. Plusieurs nous ont dit, non mais vous avez pas mis Gobert dans le top 20, scandale. Les gars, vous avez vu le top 20 NBA en ce moment? C'est
un délire. Enfin, regardez notre liste. Ça me suis dit, mais c'est impressionnant.
Kyrie est 15e. Il y a quoi? Enfin, il y a peut-être des joueurs que tu peux critiquer, je sais, comme un Butler, etc. Mais mettez-vous à notre place, il y a des mecs qu'on va devoir faire descendre. Crime de lèse-majesté, faire descendre. Très bien. Tom, Alan, un truc à rajouter, voilà, dans ce live.
Jokic MVP. On en parle. Jokic MVP.
Oui, c'est vrai. Jokic MVP.
C'est bon, on voit la tête d'Alan. Alan, c'est notre Brian Windorf. C'est Brian Windorf, c'est des fachos. Pour Jokic MVP. Mais, enfin, quel parcours, quoi. Et puis, enfin, il a fait une saison incroyable. Après, je trouve que c'est trop réducteur de se dire que l'équipe autour de lui n'est pas bonne. Il faut pas oublier le contexte et le fait que Jamal Murray soit absent. Et comme Jamal Murray, c'est ton numéro 2 qui est lui qui est en charge de tout le dynamisme, entre guillemets, sur le périmètre. Mais ça veut dire que Porter Jr. doit changer de rôle et Aaron Gordon doit changer de rôle. Et du coup, ça déstabilise totalement, en fait, l'équilibre de ton équipe. Donc, enfin, il a fait une très, très grande saison. Je pensais pas avoir un jour Nikola Jokic MVP.
Personne, je pense.
D'ailleurs, même par rapport au DHM, je me demande même si je vais même pas le considérer plus comme un initiateur que comme un pivot.
C'est ça, ouais. C'est une discussion que j'avais vue sur Twitter, mais c'est le cas, en fait. C'est le cas.
Non, mais il fait une saison exceptionnelle. Bon, là, ils arrivent sans jus, mais ça fait du bien de voir du renouveau et même un pivot. C'est la première fois depuis chaque, du coup, qu'on n'a pas eu de pivot MVP. En plus, c'est un pivot européen, qui est un jeu plutôt atypique, donc. C'est tant mieux, c'est bien pour l'avenir qu'il n'y ait pas qu'un seul type de joueur qui soit promis à ce type de trophée.
Même si, in fine, ça l'est parce qu'il faut être initiateur, en fait. C'est
pour qu'il y ait un pivot qui ait un skill set d'arrière et qui shoot comme un ailier. C'est juste trop dommage que Murray soit pas là, quoi. C'est trop dommage. Cette série, elle aurait été vraiment incroyable.
Ouais, ouais. Et c'est dommage, c'est encore plus dommage puisque on sait même pas si on aura l'occasion de pouvoir voir cette équipe là au complet, hein, puisque Jamal Murray s'est blessé en fin de saison plus ou moins, donc ça veut dire que si c'est 12-13 mois pour sa blessure, ça veut dire que la saison prochaine c'est pas sûr de le revoir sur les parquets avant les playoffs, et je pense pas qu'ils prendront le risque de le faire débuter juste pour les playoffs. Et en même temps, de l'autre côté, t'as peut-être Porter Junior qui va peut-être falloir payer, et t'as aussi Aaron Gordon qui sera en fin de contrat. Donc s'il joue pas l'an prochain, Murray, au final, et même s'il joue l'an prochain, c'est pas sûr que t'es le Murray. On a vu avec Kevin Durant, tu sais jamais ce qui peut se passer, mais tu sais pas si t'auras le même Murray qu'on a eu. Donc au final, c'est vraiment une blessure qui fait très très mal à la fenêtre.
Vous avez la fenêtre. Et elle s'est refermée
avant même qu'ils aient pu l'ouvrir vraiment, tu vois. Puisque l'an dernier, c'était quand même une surprise de les voir arriver en finale. Là, ils font les moves qu'il faut.
Mais tu vois, les matchs de saison régulière au
début, il y a Gordon. C'est incroyable. Ils prennent tout le monde, ils prennent les Clippers, ils prennent Utah, ils prennent tout le monde. Ils les battent et là, ils se blessent face à Golden State. C'est terrible, quoi.
Comme quand il a commencé, ils prennent tout le monde, ils prennent les Clippers. Moi, j'étais tout le monde le fait. Puis après, il a fait Utah, je me suis fait voir. Alors, on nous demande, ça sera la dernière question, je pense, pourquoi Alan est pas d'accord avec Jokic MVP?
Parce que j'ai voté Embiid, parce que je trouve qu'il impacte plus du terrain des deux côtés. Après, oui, Jokic est incroyable offensivement. Incroyable. Mais la manière dont Embiid change, la manière dont tu attaques et la manière dont il peut peser offensivement, je trouvais que cette année c'était vraiment super super fort. Et puis en termes de bilan, avant que Murray se blesse, c'était assez similaire, donc il n'y avait pas vraiment l'argument des bilans, il n'y avait pas vraiment cet argument là. Mais je trouvais que l'impact des deux côtés était peut-être plus grand chez Joel Embiid, tout simplement. Mais j'ai revu du film de Jokic après l'épisode où j'ai dit ça, et j'ai un peu nuancé mon propos parce que j'avais pas, je crois, assez vu. Je regarde beaucoup Denver, mais je l'avais pas assez matérialisé comment Jokic influait sur l'attaque de Denver. Mais Embiid, pour moi, méritait d'être MVP.
Vous savez, on a tous le petit combat comme ça là. Celui d'Alan, ça sera Embiid était MVP cette année. Alors, vous faites quand le top 20, Simon? Alors Simon, non, on n'est pas d'accord. DH20, pas top 20. DH20, c'est une marque déposée, DH20. Le DH20, ouais. On le fera, je pense. Alors, le DH20, j'essaye de me matérialiser. Il y a les JO, nous donne du septembre, peut-être? Du septembre, septembre, probablement. On va sûrement faire ça en septembre. Kawhi va rester à Los Angeles, mais ne sera pas aux Clippers. Alors ça, j'y crois peu.
Bah bon, il faut comment?
Non, je pense pas que ça soit possible. Ou alors, coup, ça serait intéressant.
Non, c'est juste pas possible.
Ou alors, il accepte de prendre un salaire.
Hein. Il accepte le minimum. Alors, pendant qu'on écoule, c'est horrible, hein, les allergies en cet été. Et bien, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce live. Bien sûr, on aura le temps de parler de la Free Agency, on aura le temps de parler du DH20, mais là, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur les playoffs. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, du coup, vous avez chatté avec nous, merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, vous abonner, vous écouter le podcast. Pour ceux aussi qui nous écoutent en podcast, du coup, avec ce replay, tout sera disponible, hein. Bien évidemment, chacun de nos lives est disponible en replay par la suite. Et puis, messieurs, on va prendre un peu quelques heures de pause, puis on se retrouve pour un nouveau match NBA entre nous, puis on se retrouve pour le podcast la semaine prochaine. Alors, bonne semaine de NBA à tous, et puis, bon playoff. Salut.
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 Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.